Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris, l'heure d'un nouveau journal avec Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Les premiers camions d'aide entrent dans Gaza après le cessez-le-feu. Les premières heures de trêve qui voient aussi des milliers de déplacés rentrer chez eux dans l'enclave palestinienne. Des mouvements observés dans les secteurs de Ran Younes et de Rafah où nous serons dès le début de ce journal. Les craintes à la veille de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Les déclarations du président élu hostile aux droits du sol ne passent pas auprès des Américains issus de l'immigration. Nous serons en Géorgie dans quelques instants. À la une également, le répit pour les pompiers de Los Angeles. Le vent faiblit ce week-end dans la mégalopole américaine en proie à des méga-feux, mais les bourrasques pourraient reprendre de plus belle à la semaine prochaine. Et puis, en France, ce duel par médias interposés. Jean-Luc Mélenchon répond à François Hollande qui se félicite du retour en force du PS. Nous le verrons, l'avenir du nouveau Front populaire s'écrit en pointillé. Il aura fallu 15 minutes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les premiers camions de ravitaillement de l'ONU ont pris la direction des territoires palestiniens occupés. Cette trêve entre Israël et le Hamas marque la fin des restrictions israéliennes à l'entrée de l'aide humanitaire et du carburant dans la bande de Gaza. Les autorités égyptiennes assurent que l'accord prévoit l'entrée de 600 camions d'aide par jour dans l'enclave palestinienne. C'est autant qu'il y a 15 mois avant la guerre. Alice Moreno, vous êtes à Rafah, point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte, et les premiers camions chargés d'aide affluent.
Oui, ici à Rafah, les camions continuent de franchir les hautes grilles du poste frontière. Des camions citernes remplis de carburant, mais aussi des vivres sur lesquels on peut voir apparaître les logos de l'UNVRA et d'ONG du monde entier. Un balai de semi-remorques qui se déroule sous les objectifs de plusieurs dizaines de caméras. L'État égyptien a organisé une couverture médiatique très conséquente pour immortaliser la reprise de l'envoi d'aide humanitaire, a permis à une centaine de journalistes d'accéder à la zone traditionnellement interdite à la presse. Déjà, 197 camions d'aide humanitaire et 5 camions de carburant ont quitté le territoire égyptien depuis ce matin. Ils ont transité par une porte annexe du poste frontière de Rafah, direction Kerem Abou Salem et Nitzana, sur le territoire d'Israël. Les camions ne transitent pas directement de l'Égypte vers Gaza, officiellement, car la route de Rafah qui mène au territoire palestinien est trop endommagée par des mois de combat. Et le passage par Israël est aussi prévu dans l'accord de trêve, ce qui permet à l'État hébreu de garder la main sur l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Alice Moreno à Rafah pour RFI.
Et lors de cette trêve, en tout, 737 prisonniers palestiniens seront échangés contre 33 otages israéliens. On connaît leur identité, en tout cas celle des trois premiers qui seront libérés par le Hamas. Il s'agit de civiles israéliennes âgées de 23 à 30 ans. Leur libération devrait avoir lieu dans l'après-midi. Et cet accord, en tout cas, lui, il suscite tout de même des controverses en Israël, notamment du côté de l'extrême droite. Le parti Force Juive a annoncé quitter la coalition au pouvoir. La formation politique parle d'un accord scandaleux avec le Hamas. Cette annonce ne fait cependant pas chuter le gouvernement qui bénéficie toujours d'une courte majorité au Parlement israélien. J-1 aux États-Unis. Donald Trump sera investi président demain, lundi. Pour son retour à la Maison-Blanche, le républicain a promis une flopée de mesures qui seront souvent prises par décret exécutif. Dès le premier jour de son mandat, il souhaite mettre fin au droit du sol qu'il juge ridicule. Seules les personnes nées d'au moins un parent américain ou d'un parent avec un titre de séjour pourront obtenir la citoyenneté. Un moyen, aux yeux du républicain, d'endiguer les entrées illégales aux États-Unis. Et pour passer à l'acte, Donald Trump veut déclarer l'état d'urgence national et faire appel aux militaires, une mesure qui ne passe pas auprès de la communauté issue de l'immigration. Reportage en Géorgie d'Edouard Maille.
Devant une épicerie dans ce quartier avec une importante population latino, une association a installé une table avec des brochures pour informer les migrants sans titre de séjour de leurs droits. Et l'annonce de Donald Trump est vivement critiquée. Joe est né aux États-Unis, sa famille vient du Nicaragua.
Beaucoup de personnes de ma famille sont venues ici pour avoir une meilleure vie et que leurs enfants, comme moi, aient ces mêmes opportunités. Et savoir que maintenant ils pourraient perdre ce droit, mais pour moi aussi, c'est vraiment dingue.
Edgar, dans son pull à capuche, est inquiet de cette potentielle politique.
Je pense que l'annonce de Trump est un signe de fascisme. Les historiens ont écrit sur les signes avant-coureurs et c'en est un, comme s'attaquer à l'éducation, interdire certaines informations et diaboliser certains groupes de personnes.
Israël sort de l'épicerie, des sacs de courses à la main, né au Mexique, il est en train de faire les démarches pour obtenir la nationalité américaine et ne comprend pas l'annonce du futur président.
Je trouve ça fou car son grand-père est venu ici d'un autre pays, donc perdre le droit du sol, ça n'a aucun sens.
De nombreux experts estiment que cette mesure est impossible à mettre en place, puisqu'un décret exécutif du président ne peut pas modifier la constitution où est inscrit le droit du sol. Edouard May, Gainesville en Géorgie, RFI.
Et Donald Trump, qui après son investiture prendra la direction de Los Angeles, le président élu assure qu'il ira constater les dégâts des incendies, et ce, en fin de semaine. Les pompiers, eux, luttent encore contre les flammes, même si le vent affaiblit ce week-end dans la mégalopole américaine. Des dizaines de personnes sont pour l'heure toujours portées disparues et au moins 27 personnes sont décédées dans ces méga-feux. Des méga-feux, des incendies qui sont une conséquence du changement climatique selon des chercheurs de l'Université de Californie. Jeanne Richard décrypte pour nous l'étude qu'ils viennent de publier.
C'est une succession d'événements météo inhabituels qui a abouti au feu sans précédent dans la région de Los Angeles. D'abord, deux années très humides entre 2022 et 2024, des conditions idéales pour la végétation qui a poussé et s'est accumulée dans les zones sauvages autour de la ville. S'en est suivie une période de sécheresse qui s'est prolongée jusqu'à l'hiver dernier. Toute la végétation a donc rapidement séché et s'est transformée en combustible. Et pour couronner le tout, les vents de Santa Ana, qui balaient habituellement la région, ont été eux aussi exceptionnels avec la force d'un ouragan, de quoi attiser la moindre braise. Toutes les conditions étaient donc réunies pour un feu d'ampleur. Alors ces événements auraient-ils eu lieu sans le changement climatique? Il faudra encore approfondir les études, mais les chercheurs de l'Université de Californie font une première estimation. Il a au moins pesé dans l'aridité exceptionnelle de la campagne avoisinant Los Angeles. Il en est responsable à 25%. Les scientifiques estiment donc que sans le changement climatique, ces feux auraient quand même eu lieu, seulement moins grands et moins intenses.
Jeanne Richard du service climat-environnement de RFI. C'était un réflexe pour des millions d'Américains. Impossible ce matin de scroller, c'est-à-dire de faire défiler les vidéos TikTok sur les smartphones aux États-Unis. Désolé, TikTok n'est pas accessible à l'heure actuelle, peut-on lire sur les écrans de téléphone. L'application chinoise met ainsi la pression sur l'administration Trump qui sera chargée d'étudier le dossier après que la Cour suprême ait annoncé hier l'interdiction de TikTok. Le tribunal de Séoul pris d'assaut dans la nuit, des partisans inconditionnels du président déchu déterminés à détruire des preuves. Des preuves recueillies par les juges et qui ont acté hier la prolongation de la détention de Yoon Suk-yeol. Le président sud-coréen déchu qui avait brièvement instauré la loi martiale en décembre dernier. En France, l'avenir du nouveau Front populaire s'écrit en pointillé. La rupture est consommée entre le Parti socialiste et la France insoumise. Le PS ne votera pas la motion de censure contre le gouvernement de François Baïgourou. Un texte pourtant déposé par LFI avec le soutien des communistes et des écologistes. Dans une interview à la Tribune du dimanche, François Hollande, ancien président de la République, y voit un retour en force du parti à la rose. Valérie Gasse.
Négocier avec François Bayrou pour François Hollande, c'était une bonne idée car, dit-il, les socialistes ont incarné une opposition qui construit en saisissant la main tendue du Premier ministre centriste qui, selon lui, a ouvert une nouvelle période. Une période dans laquelle la principale conséquence est pour l'ancien président que désormais rien ne peut se faire à l'Assemblée nationale sans ni contre les socialistes qui ont la clé jusqu'en 2027. Un message envoyé à LFI dont François Hollande attaque l'arrogance et la volonté de provoquer une élection présidentielle avec une spéciale dédicace à Jean-Luc Mélenchon comparé à Madame Irma dont les prophéties ne se réalisent jamais. Retour au clivage, gauche réformiste, gauche radicale, il affirme qu'il y aura deux offres à gauche à la présidentielle. En attendant, François Hollande joue aussi les échéances internes du PS, le prochain congrès dans lequel il espère peser en plaidant pour un élargissement du parti à la rose, notamment à place publique de Raphaël Glucksmann ou au macroniste déçu, avec 2027 en ligne de mire. Sera-t-il candidat? Il ne répond pas à cette question, mais il ne dit pas non.
Et la réaction de Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé. Le chef de file de LFI estime à l'instant que le Parti socialiste n'est plus un partenaire. C'est un allié et encore de circonstances, a-t-il lancé. RFI, 14h bientôt passé de 10 minutes ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Votre prochaine édition, c'est dans 50 minutes à présent.